J'ai remarqué cette semaine, mardi, avec stupéfaction, que j'avais commencé une série de prédications en janvier 2023 et que je n'avais pas terminé cette série et que je n'avais même pas continué la série. J'en étais resté à l'épisode 1 et je me suis dit, saperlipopette, comme disait le capitaine Haddock, il faut remédier à cela. Et le titre de cette série, à l'époque, que j'ai commencé en janvier 2023, c'était « Les promesses de l'ombre ». Le titre d'un film sorti, je ne sais pas en quelle année, au début des années 2000, avec le beau Viggo Mortensen, Naomi Watts, et aussi Vincent Cassel. Les promesses de l'ombre, c'est un film sur la mafia russe dans la ville de Londres, avec une scène magnifique où Viggo Mortensen est tout nu dans un hammam et il se fait attaquer. Non, je raconte pas, Yvonne? Ok. Bon, bref, elle me fait des grands signes. Bon, bref. Le film n'est pas terrible, mais le titre est génial. Les promesses de l'ombre. Les promesses non tenues, les promesses qui n'apportent que de l'ombre dans la vie, des promesses qui nous laissent sur le carreau de la vie. Et la première de ces promesses de l'ombre, je ne sais pas si vous en souvenez, en janvier 2023, mais vous pouvez aller voir sur le site de l'Église et écouter, mais c'était le mirage de l'amour. Symbolisé par Édith Piaf et son hymne à l'amour, Édith Piaf qui aimait passionnément et qui a misé toute sa vie sur l'amour, l'amour érotico-romantique, et qui a fini, je pense, assez malheureuse et assez seule. Et comme exemple biblique, on avait pris Jacob à la recherche de l'amour, Léa, Rachel, et il se retrouve... il se retrouve avec Léa alors qu'il voulait Rachel. Et Léa, qui avait une coquetterie dans l'œil, comme on dit, mais qui a été bénie par Dieu, puisqu'elle a enfanté Judas, le lion de Judas. Les promesses de l'ombre. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder une autre promesse de l'ombre, et c'est le mensonge de l'argent. L'argent qui promet beaucoup, mais qui laisse aussi bon nombre de personnes dans l'ombre de la vie. Alors Jésus nous a beaucoup parlé d'argent, en fait, dans les évangiles, beaucoup plus que d'éthique sexuelle. Après, le royaume des cieux, c'est l'argent dont il parle, c'est de l'argent dont il parle le plus souvent. Et il nous en parle comme d'un monstre, comme d'une idole. Et il va même lui donner un nom, Mammon. Un nom propre, enfin pas si propre que ça. Et quand Jésus nous parle de l'argent, il nous dit « faites attention, faites gaffe ». Et dans l'évangile de Matthieu, il va nous dire « ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille et des cambrioleurs. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille ni cambrioleur, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et Mammon, c'est-à-dire l'argent. C'est dans le sermon sur la montagne. Alors là, je dévoile un petit peu. On va commencer 40 jours autour du sermon sur la montagne. Et d'ailleurs, on va étudier ensemble, donc 40 jours, prédication, lecture personnelle sur notre petit livret, groupe de maison autour de ce sermon sur la montagne. Et on sera à la mi-mars autour de Matthieu 6. Mais Jésus nous parle d'argent et... Mais attention, il n'est pas en train de nous dire que l'argent est mauvais en tant que tel. Jésus n'est pas le révolutionnaire baba cool qu'on a présenté parfois, peace and love, même si peace and love c'est chouette, mais il n'est pas contre le travail qui mérite salaire. Au contraire, il dit aussi tout travail mérite salaire. Il n'est pas contre les riches. La richesse n'est pas un péché et la pauvreté n'est pas un idéal. Non plus, quoi qu'on l'ait dit dans l'Église. Il avait une grande tunique d'une seule couture, je crois, une tunique de riche. que les soldats romains n'ont pas voulu déchirer, justement parce que c'était à sa mort, là, au pied de la croix, parce que justement c'était quelque chose de bien. Non, Jésus n'est pas contre la richesse. Et ce qu'il veut dire, et si je comprends bien sa parole, et ce dont il veut nous mettre en garde, ce n'est pas contre l'argent, mais contre Mammon. L'idole de l'argent. Nous mettre en garde non pas contre l'argent, mais contre l'amour de l'argent ou le pouvoir de l'argent. Et le premier mensonge de l'argent, ce serait de nous dire qu'il n'a pas de pouvoir sur nous, ou qu'il n'aurait pas d'influence sur nous. Il y a Jacques Ellul, un grand penseur protestant, mais connu en dehors des cercles protestants et chrétiens, qui est de Pessac, de Bordeaux, a dit « Quand l'homme prétend se servir de l'argent, il se trompe lourdement. » Il peut, à la rigueur, se servir de la monnaie, mais c'est l'argent qui se sert de l'homme en se pliant à sa loi. Et vous avez l'image de Serge Gainsbourg, vous vous souvenez, qui brûle un billet de 500 francs à la télé. Ça nous a horrifiés d'un sens comme de l'autre. Pourquoi il aurait pu le donner aux pauvres, mais en même temps, il voulait, je ne sais pas ce qu'il voulait faire, Serge Gainsbourg. Et Jacques Ellul n'est peut-être pas assez convaincant. Il y a un lecteur de Télérama, à l'époque où j'étais abonné à Télérama, qui écrivait « Les Incas, vouaient un véritable culte au soleil. Chaque matin, ils attendaient le soleil. Au besoin, pour apaiser sa colère, les prêtres expliquaient au peuple qu'il fallait sacrifier quelques humains. Aujourd'hui, chaque matin, nous attendons le verdict des agences de notation. Au besoin, pour apaiser leur colère, les nouveaux prêtres de la finance nous demandent quelques sacrifices humains. Dans le fond, rien n'a véritablement changé. » Didier, de Dijon. En 2008, souvenez-vous, lors de la crise financière qui a secoué les États-Unis et le monde entier, à cause de spécialistes, soi-disant spécialistes de l'argent, qui ont cru tout se permettre, ou qui se sont cru tout permis, pardon, et en l'occurrence de se construire un système financier frauduleux comme un château de cartes incroyable, et quand le château de cartes s'est écroulé, il y a eu des dégâts. Il n'y a pas que des gens qui ont été en prison, comme Bernard Madoff, mais il y a eu des morts. Le directeur financier de Sheldon Good, une société spécialisée dans la vente aux enchères de produits immobiliers, s'est tiré une balle dans la tête. On l'a retrouvé dans son garage, à côté de la roue de sa voiture, une Jaguar. Un investisseur français qui avait investi des fortunes de plusieurs familles européennes dans la construction financière de Bernard Madoff, le système de Ponzi, et qui avait perdu 1,4 milliard de dollars, s'est ouvert les veines dans son bureau de Madison Avenue. Un Danois, directeur d'une banque HSBC, s'est pendu dans sa suite de l'hôtel où il vivait à l'année, à 500 livres sterling la nuit. Et la liste des victimes pourrait s'allonger, des gens laissés sur le carreau de Mammon. Et on entend parfois des voix qui disent « ils ont joué, ils ont perdu, tant pis pour eux ». Mais non, Dieu ne se satisfait pas de cette réponse. Et Jésus nous dit de sa part « faites attention à ce faux Dieu, à cette idole qui nous mange la vie ». Je reconnais ma dette à Timothée Keller, ce pasteur de New York, qui vraiment s'intéressait aux jeunes adultes de New York, qui étaient là, à Manhattan. Formidable écrivain. J'ai lu presque tous ses livres. Je vous les conseille. Timothée Keller, qui est mort l'année dernière d'un cancer du pancréas et qui avait eu un témoignage magnifique avant sa maladie, mais aussi pendant sa maladie, à travers tous les États-Unis et l'Europe. Tous les pasteurs français, on le connaît, ce Timothée Keller. Et ses articles paraissaient même dans le New York Times, dans Le Monde, en France. Et il a écrit un livre sur les idoles, le Dieu en contrefaçon, les dieux de contrefaçon. Et il a écrit, pour bien définir la notion d'idole, l'idole, on l'aime, on lui fait confiance et on lui obéit. Alors, l'idole, moi ça me fait penser à Johnny Hallyday, l'idole des jeunes. Enfin, c'était un peu, j'étais un peu jeune pour lui, mais on l'appelait l'idole des jeunes. Alors, on l'aimait un peu, beaucoup, un petit peu. On lui faisait peut-être confiance, mais on lui obéissait pas, Johnny Hallyday. Mais l'idole en profondeur, on l'aime, on lui fait confiance, on lui obéit, et c'est ce qui pousse Édith Piaf à se lancer corps et âme dans cette recherche d'un amour érotico-romantique qui déçoit quand même. Et ces idoles qui nous prennent tout, elles sont de retour et elles n'ont jamais disparu d'ailleurs. Et l'argent en fait partie. Et je vais vous donner deux preuves que l'argent peut être vraiment considéré comme une idole, quelque chose qui vous prend tout entier. D'abord par son pouvoir de séduction. Monsieur Pagnol, dans sa pièce de théâtre Topaz, nous parle d'un instituteur, Topaz, joué par Fernandel, super sympa, un peu naïf, amoureux de Suzy, et par amour pour elle, il va essayer de gagner l'argent par tous les moyens possibles, et il se plonge dans des histoires un petit peu louches pour venir en aide à son amoureuse. Et le gentil monsieur Topaz réussit assez bien dans les affaires louches, et quand il s'aperçoit qu'il a été manipulé par son amoureuse Suzy, eh bien, il délaisse Suzy et il se donne tout à fait dans ses affaires louches et à l'argent. Il devient cynique, il devient froid, il devient manipulateur et il va dire à la fin de sa pièce « L'argent peut tout, permet tout, donne tout. Si je veux une maison moderne, une fausse dent invisible. La permission de faire gras le vendredi, ça date un peu ça, mais mon éloge dans les journaux ou une femme dans mon lit, l'obtiendrai-je par des prières ?» Par le dévouement ou la vertu, il ne faut qu'entrouvrir le coffre et dire combien. Ça, c'est Topaz, Marcel Pagnol. Et je crois que Pagnol voulait lutter contre le pouvoir de séduction et de transformation de l'argent en décrivant un type comme Topaz qui s'est laissé prendre par le monstre de l'argent, par Mammon. Et puis, deuxième caractéristique de l'argent qui montre qu'il s'agit bien d'une idole, c'est ses promesses non tenues. La Bible parle des idoles, elle parle des idoles et elle dit, et j'aime bien cette expression, ce sont des idoles de néant, c'est du vent, il n'y a rien. Et l'argent est une idole particulièrement vantée. Il fait beaucoup de promesses et il en tient très peu. Il promet le bonheur. Alors il est de bon ton de dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Tout le monde aime le dire, mais on n'y croit pas vraiment à cette phrase, l'argent ne fait pas le bonheur. On se dit si, il fait le bonheur, ou du moins, il y participe. Moi j'aime cette phrase de Coluche qui était ce qu'il était, mais qui disait l'argent ne fait pas le bonheur des pauvres. C'est du Coluche, et c'est tellement vrai. Bon, bref, on se dit qu'il vaut mieux en avoir quand même un petit peu, et la Bible le dit aussi dans le livre des Proverbes, le livre biblique des Proverbes, il est dit « Ne me donne ni richesse ni pauvreté, seulement de quoi vivre simplement devant toi. » Ça, c'est un beau proverbe, Proverbe 30, verset 5. Mais il est loin de faire le bonheur du monde. Il y a le diplomate Alexis de Tocqueville, envoyé par le gouvernement français en Amérique au XIXe siècle, en 1830, au retour de son voyage en Amérique, qui écrit « Il règne là-bas une étrange mélancolie qui hante les habitants de ce pays alors qu'ils sont dans l'abondance. » Et il ajoute que les joies incomplètes de ce monde ne pourront jamais satisfaire le cœur humain. Il règne là-bas, et peut-être ici aussi, une étrange mélancolie. Alexis de Tocqueville. Alors, qu'on a l'impression dans les périodes d'abondance, de prospérité, ou plutôt dans les périodes juste avant, que l'argent peut tout changer, on s'aperçoit qu'il ne change pas grand-chose en fait, il ne change rien au niveau de cette mélancolie, au fond du cœur. Et c'est aussi là le mensonge de l'argent, le deuxième. Une promesse non tenue au niveau de l'identité ou la valeur de l'homme, l'argent ne change rien. Et je lisais encore dans un magazine le titre, et le titre était de l'article « Je gagne, donc je suis ». Un petit peu un clin d'œil à Descartes. Mais ce n'est pas « je gagne », c'est « je pense, donc je suis ». Mais aujourd'hui, c'est « je gagne, donc je suis ». Et c'était bien trouvé parce que aujourd'hui, c'est l'argent que l'on gagne qui fonde sa valeur. Alors, on ne le dit pas comme cela, on n'ose pas en tout cas, mais quand on rencontre quelqu'un, par exemple, pour la première fois, on aime poser la question, après 10 minutes, « Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Pour un peu situer la personne, financièrement parlant. Et c'est peut-être pas anodin. Et Jésus, encore lui, répond à deux frères qui se disputent l'héritage et qui demandent à Jésus d'arbitrer cette question d'héritage. Il dit, et Jésus répond, « Moi, je ne suis pas là pour arbitrer vos questions d'héritage. » Mais il va dire, « Je gagne donc je suis, avec Picsou, il va dire, « La valeur d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède, même s'il possède beaucoup. » Et il ajoute, « Gardez-vous donc avec soin du désir de posséder, parce que ce n'est pas cela qui donne cette valeur que vous recherchez, ce sentiment d'exister, ce truc qui justifierait votre présence sur la terre, ce n'est pas l'argent qui le donne. » Prenons par exemple le cas de Zachée dans la Bible. C'est un habitant de Jéricho. Jéricho, c'est pas très loin de Jérusalem. Il a un super boulot, Zachée. Il a décroché le super job. Il collecte les impôts dans la Judée. Et à l'époque, les Romains donnaient une certaine liberté à ces collecteurs d'impôts. Ils lui donnaient un certain montant et le collecteur d'impôts pouvait aller au-dessus, collecter des impôts supérieurs à ce que les Romains avaient demandé, et évidemment, le reste était pour lui. Et ils avaient extrêmement une mauvaise réputation. Et en plus, Zachée, il était chef, il avait gravi tous les échelons. Or, il y avait là un homme, Zachée, il était chef des collecteurs d'impôts et riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Alors, il courut en avant et il grimpa sur un sycomore. Et cette histoire est rigolote. Enfin, ouais. Parce que on voit d'ici le tableau du chef sur un arbre perché. Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Il est petit, c'est vrai, mais qu'est-ce qui l'a poussé à monter là-haut et à se couvrir de ridicule ? Il a envie de voir Jésus. Il a peut-être cette mélancolie dans son cœur dont parlait Alexis de Tocqueville. Et pour cela, il est prêt à faire n'importe quoi parce qu'il a beau avoir réussi, il y a encore des problèmes pour se situer dans la vie. Qui suis-je réellement ? Moi, Zachée, il est riche, mais à cause de sa mauvaise réputation, il est pauvre en relation. Il veut être grand dans la ville, dans la vie, mais il est petit de taille. Il s'appelle Zachée, le pur. C'est l'étymologie de son nom, le pur, alors qu'il manipule de l'argent, pas vraiment sale, mais pas vraiment propre non plus. Et moi, j'aime bien Zachée parce qu'il est comme nous, il est plein de contradictions dans sa vie. Et il recherche quelque chose, et il a des problèmes d'identité, et il a des problèmes d'acceptation de soi. Il a une étrange mélancolie pour Zachée. L'idole, et l'idole à laquelle il a consacré sa vie, n'a pas répondu à ses promesses. Il reste avec lui-même, et ce n'est pas satisfaisant pour Zachée. Et cela le pousse à monter sur cet arbre, presque un acte de désespoir. Mais la suite de l'histoire est intéressante parce qu'elle va nous permettre de voir comment Zachée va se sortir de cette vie sous l'emprise de Mammon. Dans la lutte contre Mammon, suivez mon exemple, nous dit Zachée ce matin. Et il va nous dire, son premier exemple, Zachée va s'ouvrir à Jésus, il va s'ouvrir à la grâce de Jésus, il va ouvrir sa maison à Jésus. Jésus, c'est Jésus d'ailleurs qui remarque Zachée et qui lui dit, je vais venir chez toi Zachée. Et Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie chez lui. Lui, le publicain, lui, l'homme à la mauvaise réputation, lui, l'homme rempli de contradictions, lui, l'homme pris certainement sous l'emprise de Mammon. Et, j'ose le dire, Jésus va chez Zachée. Essayez de le dire très rapidement, ça. C'est comme je suis passé chez Soche. Ah ouais, non, j'ai pas réussi. À chaque fois, je le dis, hein, j'adore cette histoire de Jésus va chez Zachée. Et c'est la première, le premier pas de la libération de l'idole, accueillir Jésus. Je lisais un livre du rayon psychologie-sociologie de la FNAC. J'ai lu beaucoup de livres à la FNAC, sans les acheter. Avoir ou être, ou comme un peu tout le monde, on dénonce notre société basée sur l'avoir, sur la possession, et on oublie l'importance de l'être. Avoir ou être, nous pose Eric Fromm dans son livre. Mais la conclusion, je vais souvent à la conclusion dans ces livres que je lis à la FNAC sans les acheter, il disait, pour lutter contre le pouvoir de l'argent, il fallait que se lève un homme nouveau dans une société nouvelle. Oui, mais sympa, c'est un beau programme, mais par où on commence pour le nouvel homme, l'homme nouveau, on ne sait pas trop. Zachée, lui, ouvre la porte à Jésus. Il l'accueille chez lui, il le fait avec joie. Et le pasteur Keller nous disait dans son livre qu'on ne peut pas simplement supprimer une idole de la vie, soit on la remplace par une autre idole, soit on y met quelque chose de plus grand, de plus fort, de quelqu'un qui tient toutes ses promesses. Zachée ouvre la porte à Dieu dans sa vie. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. Et quand c'est Dieu qui rentre, Mammon s'enfuit par la porte de derrière. Et c'est tant mieux parce que Mammon n'a jamais rien apporté dans la vie de Zachée, rien de durable, rien au niveau des relations, rien au niveau du sens. Jésus, quand il rentre avec tout. Aujourd'hui, le salut, dit Jésus, quand il est chez Zachée, le salut est rentré dans cette maison, le salut par rapport à une vie complètement bouffée par une petite idole qui ne remplit aucune de ses promesses et qui n'a aucun avenir. Jésus, lui, arrive dans cette maison avec tout son amour pour cette personne Zachée, pleine de contradictions, à mauvaise réputation, le pur aux mains sales, le petit qui voulait être grand, le riche en argent, pauvre en relation, et il l'aime gratuitement, Jésus, Zachée. Sans qu'il n'y ait dans la personnalité de Zachée rien qui soit vraiment exceptionnel, Jésus s'invite chez lui. Il casse les codes, il aime sans retour, comme le chantait Florent Pagny. Et cela, ça change tout chez Zachée. Un amour gratuit, sans commerce. Il y a de quoi remplacer là l'idole de topaze. Et vous savez comment s'appelle cet amour gratuit en jargon religieux? Ça s'appelle la grâce. Mais quel joli mot! Qui prendra tout son sens quand Jésus vient mourir sur une croix pour des gens, pour des personnes qui ne le méritaient pas spécialement, mais qui était tellement précieux aux yeux de Dieu, précieux ces personnes aux yeux de Dieu comme Zachée, comme moi, comme Dieu nous voit sur un arbre perché à la recherche d'un peu de sens dans ce monde où tout s'achète. Il s'invite chez nous et nous donne son pardon. Il nous pardonne, il donne par-dessus. Il nous donne son pardon, son amour, sa grâce. Et il le fait gratuitement et il vient dans ce monde de commerce, du donnant-donnant, il vient donner son amour inconditionnel. Et il introduit la gratuité dans ce monde de commercial. Et quand on comprend que Jésus a tout donné pour moi parce qu'il me trouvait tant de valeur, parce que j'étais précieux à ses yeux, alors l'argent va cesser d'être la valeur refuge, ou cette valeur qui ne tient pas ses promesses, parce que j'ai trouvé mon identité, ma sécurité en Jésus, en Dieu lui-même. Mon éternité, mon identité, ma sécurité, ma valeur. Alors je ne vais plus rechercher dans l'argent cette sécurité illusoire. Parce que mon statut, la justification de ma vie, ma sécurité, je la trouve en lui. L'argent ne sert plus à tout cela. Je peux m'en servir pour faire du bien autour de moi. La grâce de Dieu dans ma vie change tout. Un amour gratuit qu'il faut accepter sans rien payer, et ça c'est souvent difficile parce qu'on a envie de faire du donnant-donnant, mais la grâce est juste à accepter, juste accueillir, ouvrir la porte comme Zachée l'a fait à Jésus, à la gratuité. Et on continue avec Zachée dans son processus de libération de l'idole. Une fois que Jésus est rentré chez lui, il y a comme un vent nouveau qui souffle chez Zachée et il va dire... Écoute, maître, je vais donner, ou je donne, il y a deux interprétations possibles, mais je pense celle où c'est plutôt un vœu de Zachée, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends quatre fois plus. Et là, Zachée, on ne le reconnaît plus, lui qui prenait aux gens deux fois plus que les Romains ne l'exigeaient, il va rendre quatre fois plus. Et surtout, il va donner la moitié de ses biens aux pauvres. Donner. Le mot que Mammon n'aime pas du tout. Le mot que Mammon a vraiment du mal à avaler, mais c'est justement le but. Pour lutter contre le pouvoir de séduction de Mammon, il nous faut apprendre à donner, à partager. Et Jacques Ellul le dira dans son livre L'homme et l'argent que le don est une véritable profanation pour l'argent. Pour l'idole de l'argent. Et quand on se met à donner de l'argent, on introduit, comme je le disais tout à l'heure, quelque part la gratuité dans ce monde de commerce. Et ça énerve Mammon. Et ça enlève à Mammon tout son caractère d'idole sacrée. On remet l'argent à sa place. Cette place qu'il n'aurait jamais dû quitter, une place de serviteur pour l'argent, et non pas de maître, et non pas d'idole. Le don, le partage, casse tous les codes. Et le don fait autre chose. Non seulement il remet Mammon à sa place, mais il brise aussi mes chaînes. Mes propres chaînes, comme celle de Zachée, et cette décision qu'il prend devant Jésus, c'est comme un cri de victoire. Je donne la moitié de mes dons, de mon argent aux pauvres. Il n'obéit plus à l'argent. Il ne le fait plus confiance. Il est libre, Zachée, comme Max. Et j'ai donné comme titre à ce point « Apprendre à partager ou à lâcher prise ». Alors, il ne s'agit pas de tout donner pour se retrouver dans la misère, le Nouveau Testament le dit aussi. Moi, je ne pense pas qu'il y ait dans la Bible, pour tous les chrétiens, des vœux de pauvreté. Certainement pas de vivre dans la misère. Il y a un équilibre à avoir. Mais partager... Donner avec ceux qui n'ont pas assez, avec ceux qui ont moins, avec ceux qui ne peuvent pas vous rendre l'appareil. Introduire la gratuité dans le monde, partager la grâce, ça c'est libérateur. Et puis, dernier geste, peut-être pas évident, que l'on trouve en conclusion de cette histoire. En fait, c'est pas un geste de Zachée, c'est une parole de Jésus. Car le Fils de l'homme, il dit en conclusion de cette histoire de Zachée, car le Fils de l'homme, il parle de lui, Jésus, est venu chercher et amener au salut ceux qui étaient perdus. Zachée, par exemple. Et avec ce mot salut, encore présent, il a dit, le salut est entré dans cette maison. Jésus venu pour nous sauver. Je me souviens qu'il y avait un micro-trottoir d'une vidéo organisée par un groupe de jeunes et ils interrogeaient des gens et ils leur posaient la question, c'était une question un peu bizarre, provocatrice, que pensez-vous de Jésus sauveur? Et là, c'était il y a bien longtemps que j'arrive à, à Cannes, mais je me souviens d'une femme âgée, un petit peu âgée, avec des boucles d'oreilles magnifiques, super maquillage, avec, je pense, un caniche dans les bras, belle veste, on voyait que le haut du corps, mais on voyait la tête du caniche. Elle a répondu à la question « Que pensez-vous de Jésus Sauveur ?» Elle a répondu « D'abord, je ne pense pas avoir besoin d'être sauvé. » Et c'était clair qu'elle venait du Sud-Est, peut-être de Cannes. Non, je ne sais rien du tout. Mais on en a vu des dames d'un certain âge avec caniche, etc. Mais c'était fou. Hein. Effectivement, elle n'avait pas l'air malheureuse. Mais elle dit, d'abord, je ne pense pas avoir besoin d'être sauvée. Ensuite, et puis, mais le monteur a coupé. Parce que la phrase était emblématique et symptomatique. Je n'ai pas besoin d'être sauvé. Ah, certainement pas à l'extérieur. Comme Zachée, il n'avait pas besoin. Mais à l'intérieur, était-elle si sûre de ne pas avoir besoin d'être sauvée, de faire un choix de vie, de retrouver toute sa valeur en tant qu'être humain, en Jésus, dans l'amour inconditionnel du Père? Et cette parole de Jésus dans la maison de Zachée montre qu'il s'agit avec l'argent de faire un choix qui n'est pas moral, un choix qui n'est pas éthique, un choix qui n'est même pas politique, mais un choix spirituel, un choix de l'esprit, un choix d'une vie. On ne peut servir Dieu et Mammon, disait Jésus, on ne peut pas, il faut choisir. Et pour ceux qui sont parmi nous et qui n'ont pas encore fait ce choix de vie, à accueillir Jésus dans leur maison comme Zachée l'a fait, ben, on vous invite vraiment à le faire, à trouver le Dieu de la grâce, de la gratuité, de l'amour gratuit qui nous mobilise, qui nous ouvre les portes de la vie. Et puis pour ceux qui sont déjà chrétiens, nous aussi nous devons peut-être évaluer honnêtement notre vie et nous demander dans quelle mesure l'argent n'a pas regagné du terrain et qui grignote pas un petit peu en tant qu'idole du terrain et qu'il n'aurait pas dans notre vie un certain pouvoir. Moi, chaque fois que je vois ici à Cannes une Lamborghini ou une McLaren avec un type de mon âge qui conduit, je me dis okay. Eh bien, je dois réévaluer ma vie en disant, ah, j'ai fait un choix de vie. J'ai fait le choix de la Kangoo Renault. Quand j'appuie sur l'accélérateur, il ne se passe rien. Et puis se départir de cette naïveté par rapport à l'argent et de son pouvoir de détournement. Retrouver peut-être chacun la joie de donner, et de renouveler notre choix déterminé vers le Dieu de la grâce. Je termine par une dernière citation de Timothée Keller. « Vers qui puis-je me tourner qui soit suffisamment beau, grand et élevé pour me permettre d'abandonner tous ces faux dieux et leurs promesses de l'ombre ?» C'est une question rhétorique. On connaît tous la réponse, mais moi j'ai envie de répondre comme ses disciples autour de Jésus, qui, avec Pierre, disent « Vers qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Amen, les amis.